Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Le forum minier Indaba 2017 a ouvert ses portes mardi 23 mai à Kolwezi dans la province de Lualaba pour 3 jours. Lors du lancement des travaux, le gouverneur des provinces Richard Muyej a affirmé que l'entrepreneuriat local n'est pas valorisé en RDC, ce qui ne favorise pas le développement des communautés où sont implantées les industries minières. Les débats de ces forums ont tourné autour des mines, du développement ainsi que de la cohabitation entre les industriels et les communautés locales. Quels seraient, selon vous, les préalables pour assurer le développement de l'entrepreneuriat local dans les zones d'exploitation industrielle? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 081-890-6315 pour vos interventions en direct. Mais le débat s'étend également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Sylvain Matundu est à la mise en onde de Nico Kalambayeto Standard. Pierrot et la Mégie est à la présentation de ces magazines sous la supervision de Martin Seboujangwe Fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Le forum minier Indaba 2017 s'est tenu pour la première fois à RDC. C'était du 23 au 25 mai 2017 à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et nous mettons au centre de cet échange la promotion de l'entrepreneuriat local, comme l'a souhaité les gouverneurs de province. Quels sont les préalables aujourd'hui pour que le développement de l'entrepreneuriat local soit assuré dans les zones d'exploitation minière? C'est la question au centre de notre échange. Et nous avons associé à cet échange Monsieur Georges Bokundou, qui est l'organisateur même de ces forums. Georges Bokundou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avoir organisé le forum Indaba en RDC? On sait que cette fois, ça se tient en Afrique du Sud.
Oui, il est vrai que chaque année, on tient la Thematic Mining Indaba en Afrique du Sud. Et nous devons partir de l'idée que même si en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de mines, il y a encore beaucoup de mines, mais le Congo, notre pays, a plusieurs projets miniers dans notre pays, et que c'était nécessaire que même si les autres États en dehors de l'Afrique organisent déjà le mining Indaba dans leur pays, nous étions quand même les premiers, parmi les premiers à être concernés, et nous ne devons pas être les derniers à organiser ce genre de forum. Voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette année notre premier Alternative Mining Indaba.
Alors, quelle a été la note particulière? On sait, comme vous l'avez dit, il y en a d'autres pays qui organisent chez eux, ça s'organise souvent en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a-t-il eu une note particulière pour ce forum qui s'est tenu en RDC?
Oui, la note particulière, comme vous l'avez annoncé vous-même dans le titre de ce magazine ou cette communication, c'est qu'effectivement le constat est amer. Le constat a été déclaré amer parce que au regard des nombres des entreprises que nous avons dans notre pays, on ne sent pas encore que l'entrepreneuriat local s'il a une place de choix. Non, c'est vrai, le gouverneur l'a dit et nous tous l'avons constaté. Les grands sous-traitants des grandes compagnies minières ne sont pas des compagnies locales. Ce sont des partenaires extérieurs à ces entreprises. Mais la raison simple ou la raison que tout le monde déclare, c'est toujours qu'il n'y a pas des entrepreneurs locaux qui ont des capacités nécessaires pour assumer ou réaliser certaines activités que ces mêmes compagnies étrangères demandent ou ont besoin. Mais ça, c'est une déclaration qui ne tient pas debout. Parce qu'il y a eu des enquêtes qui montrent que les mêmes entreprises forment avec leurs maisons mères des sous-traitants étrangers qui n'ont rien peut-être au départ et ils devaient faire la même chose là où on estimerait qu'il n'y avait pas de compétences. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que nous avons fait un constat pour dire que la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba qui regorge toutes les grandes compagnies du pays. Après 10 ans, un exemple, ou 15 ans, qu'est-ce que cette ville serait si l'État et les compagnies et la population ne mettaient pas dans la tête l'option que nous voulons? Quelle est la vision que nous voulons? Est-ce que nous voulons que Kolwezi ou les Lualaba ou les autres provinces où il y a les activités, mais restent comme ça après 10 ans, où nous avons besoin que ces mines puissent nous apporter le développement? Donc ça, c'est l'un des constats que nous avons soulevé et que les participants ont discuté tous les 2 jours. Et le 3e jour, nous avons déposé un mémo auprès du gouverneur.
Alors, on sait que le problème se pose. Depuis un moment, on pensait qu'avec le code minier, ça pouvait arriver à résoudre cette question de développement, mais les voix se sont aussi élevées au niveau de la société civile pour que le code minier soit révisé, parce qu'on estime qu'il profite plus aux investisseurs qu'aux communautés locales. Est-ce qu'on peut arriver à résoudre ces plaidoyers? Peut-il apporter des résultats? Sur le plan juridique, on n'a pas amorcé les questions de fonds qui étaient soulevées par la société civile dans les cadres du code minier?
Bon, il y a deux choses. Il y a la loi elle-même et il y a la volonté de respecter la loi. La loi, elle est là. Nous avons fait des grands plaidoyers. Aujourd'hui, nous avons appris que les ministres des Mines devaient présenter ces lois au niveau du Parlement. Ça a été notre souhait depuis 2015. Nous nous sommes battus pour, ensemble avec le gouvernement, pour proposer un seul texte. Ça, c'est ce qu'on avait appelé les travaux tripartites. Et lorsque les documents étaient déposés au Parlement, nous étions d'une manière particulière satisfaits, parce qu'il faut quand même changer la loi, parce qu'il y a des dispositions qui sont là, qui n'étaient pas dans l'ancienne loi de 2010. Alors, il faut avoir la loi pour chercher à apporter un souffle pour le secteur minier congolais. Donc, si on ne l'a pas, on va garder les mêmes contraintes. Il n'y a même pas de contraintes énormes dans l'ancienne loi. Il est vrai que certains investisseurs ou la Chambre des Mines a toujours considéré qu'il faut d'abord exécuter totalement la loi de 2010. Mais on l'a exécutée, c'est pour cela que nous avons eu plusieurs investisseurs au Congo, même si certaines dispositions n'ont pas été totalement mises en pratique. Mais il faut maintenant exécuter la loi. Il faut que les compagnies respectent les dispositions de la loi. Il faut que l'État lui-même fasse appliquer la loi avec ses services sur terrain. Nous revenons tous les jours pour dire que lorsqu'il faut faire les contrôles, ce n'est pas l'État en général qui fait les contrôles, c'est le service du ministère des Mines. Et il faut des moyens. Si le service du ministère des Mines doit attendre que le budget général puisse décaisser l'argent des frais d'émission, on n'aura jamais de contrôle sur le terrain. C'est dans ce cadre-là que la loi de 2010 avait donné les droits superficiels pour que les services qui interviennent dans la gestion de les contrôles puissent bénéficier de ces fonds afin de leur permettre de faire les inspections réelles, conformes aussi les services, les agents, pour qu'ils aient les capacités nécessaires à contrôler ces entreprises qui ont des nouvelles technologies, qui ont des pratiques diverses. Donc, il y a d'une part la volonté de finaliser l'examen, l'adoption de la loi, et d'autre part, cette capacité de l'État de mettre en pratique ou en exécution toutes les dispositions du code minier. Mmh. En plus de cela, il y a la loi sur la sous-traitance. Il faut que cette loi soit appliquée, de sorte que les entreprises respectent la norme congolaise. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir un entrepreneuriat local un peu capable de promouvoir aussi la classe moyenne congolaise.
Alors, avant d'écouter les auditeurs, Georges Bokundu, on se rappelle qu'on a, nous avons eu dans plusieurs débats déjà avec vous, mais au niveau de l'ITIE, on s'est battu aujourd'hui pour que le gouvernement congolais publie les recettes du domaine minier d'une manière distincte, parce qu'aujourd'hui ces recettes sont confondues dans les recettes globales. Comme ça s'est fait ailleurs, les gens avaient souhaité qu'on puisse avoir ces recettes d'exploitation minière distinctes, comme ça on pourra évaluer ce qui entre dans la caisse de l'État et de quelle manière on peut affecter. Est-ce qu'on peut y arriver aujourd'hui un jour à voir les recettes minières publiées, rendues on peut dire rendues publiques d'une manière distincte plutôt que les confondre dans la globalité de la fiscalité?
Bon, il y a toujours ces recommandations là. On a une caisse unique pour toutes les recettes qui proviennent du secteur minier et du secteur des hydrocarbures. Que ces recettes ne soient pas éparpillées. Mais je pense qu'au stade actuel, il y a quand même une certaine traçabilité de ces recettes. C'est pour cela qu'on publie quelque chose dans les rapports des litiges. Avoir une caisse unique, c'est une chose. Avoir aussi la manière dont ces recettes sont utilisées pour voir à quel niveau les secteurs contribuent au développement, c'est une autre chose. Donc, les efforts fournis par l'ITIE, par le processus ITIE, c'est vraiment remarquable, c'est souhaitable d'être réalisé. Mais le grand problème, c'est de dire, est-ce que ces recettes-là aussi, nous avons réellement atteint un niveau voulu avec la production actuelle? Est-ce que ces recettes sont comparables à la production actuelle, à l'exportation actuelle, ou elles sont encore minimes? Le problème, c'est ça. Est-ce que nous recouvrons totalement ces recettes selon les dispositions fiscales que nous avons aujourd'hui, où il y a encore problème de l'inefficacité des services de recouvrement des taxes? Donc, voilà. Ça, c'est des mécanismes qu'il faut mettre en place pour avoir un objectif final à atteindre.
Voilà, on va revenir à vous. Alain Bolodua nous appelle de Kinshasa, maître son ville de Lubumbashi, 081-890-4969. Si vous avez des petits soucis pour nous joindre sur nos deux lignes de téléphone, vous pouvez déposer votre numéro de téléphone sous la page Facebook des Paroles aux Auditeurs et nous vous accordons la parole.
Parole aux auditeurs.
Alain, merci d'être avec nous de Kinshasa. Quels sont pour vous les préalables qui peuvent amener à assurer le développement de l'entrepreneuriat local dans les zones d'exploitation industrielle, exploitation minière, bien sûr?
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Bon, je crois que cette question met en surface la problématique même de la gouvernance et du développement de notre pays. Je crois que l'idée devrait partir d'un fait, d'une évidence, c'est que les ressources minières sont épuisables. Et dans certains pays qui exploitent ce genre de matière, envisagent déjà une sorte de mutation vers le tourisme ou la diversification de l'économie pour se rassurer d'un lendemain meilleur. Mais on se rend compte que bien qu'on a péroré sur la croissance économique, la population riveraine n'arrive pas à bénéficier de ces exploitations. Et pourtant, les entreprises qui exploitent se voient de plus en plus riches au détriment de cette population qui est non seulement gardienne, mais aussi propriétaire de ces ressources. La difficulté que moi je constate, c'est que avant d'investir en République démocratique du Congo, il y a des évaluations qui sont faites en amont. Et pour que l'État autorise l'exploitation, il doit se rassurer de la valeur ajoutée socio-économique, ce qui sous-entend l'incidence ou l'impact de cette exploitation au niveau de la population. Et c'est après seulement qu'on arrive à valider ou accepter le projet d'investissement. Mais malheureusement, on se rend compte que la population riveraine ne se retrouve pas. Dans la pratique, lorsqu'on vient dans un coin pour exploiter, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges. Les choses du village demandent quelque chose, mais au finish, c'est tout ce qu'on donne à la communauté. Or, ce que nous voulons, c'est que nous arrivions à maximiser ou à optimiser l'apport de ces entreprises dans le développement du pays. Alors, s'il n'y a pas de petites et moyennes entreprises qui se créent, c'est tout simplement par rapport d'abord à la nature de produits qui sont exploités, mais aussi par rapport à la nature de produits qui sont vendus. Il n'y a pas une valeur ajoutée qui s'ajoute, qui est prise en compte au niveau d'ailleurs de l'exploitation. Nous donnons nos cuivres et ces gens partent avec notre matière première. Au finish, ils nous amènent des robinets. Nous consommons les robinets à prix excessivement cher, alors que nous vendons à moins cher. Si l'État pouvait envisager, ou si l'État pouvait mettre en cette réalité, on pouvait faire en sorte que la communauté puisse avoir des moyens. Comment voulez-vous qu'il y ait une naissance de petites et moyennes entreprises dans un coin, dès lors que la formation n'est pas assurée, dès lors que ces gens-là sont dans une pauvreté déshumanisante, dès lors que ces gens-là n'ont pas assez d'informations? C'est ce qui justifie, dans une certaine mesure, la complaisance au niveau de suivi de décisions qui sont au niveau de loi. Moi, je souhaite à ce que l'État puisse revoir cette manière de faire afin que la population bénéficie directement des exploitations. Parce que si nous prenons en compte ce qui se fait aujourd'hui, cette population-là qui ne bénéficie de rien de cette exploitation, mais il y a au moins des taxes et des impôts qui sont perçus par l'État. On leur interdit, on les empêche d'avoir droit aux 40% de rétrocession. Les entreprises exploitent ne donnent rien. Au finish, la population ne fait que constater l'exploitation. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, l'État doit mettre en application les lois de la République.
Merci.
On doit arrêter d'apparaître, de se faire apparaître comme des victimes alors que nous sommes nous-mêmes les complices naïfs. Si on doit revoir certains contrats pour faire en sorte que la population puisse être la presse bénéficiaire, nous devons le faire. On doit migrer vers les autres services, on doit migrer vers la recherche, on doit migrer vers le tourisme, parce que ces ressources-là sont épuisables. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup Alain pour toutes ces précisions. Et vous avez là estimé que tout revient à l'État. Si l'État veut faire respecter ses lois, la question de cahier des charges aujourd'hui, on sait hein, comment ça se passe avec des sociétés d'exploitation industrielle dans des villages. On connaît aussi des villages aujourd'hui qui ont été vidés de leur population. Les gens ont été délocalisés. Même l'indemnisation a posé problème. Ça dit qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Et la plupart des cas, chaque fois que nous faisons ces débats, on se plaint toujours que beaucoup d'entreprises ne respectent pas ces cahiers des charges. Mais notre invité évoquait tout à l'heure le caractère aussi non contraignant de ces dispositions au niveau de la loi. Merci beaucoup Alain. On va à Lubumbashi, maître Sonville. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, Monsieur Pierrot, j'estime que la problématique elle est très pertinente. C'est pourquoi l'organisateur de ce forum, Indaba, a trouvé une quintessence dans ce qui concerne la problématique citée. Moi, je peux dire ceci. Il existe au Congo une loi sur la sous-traitance. Mais pourquoi cette loi n'a jamais été appliquée? Et d'abord, je loue cette initiative de ce forum, des organisateurs de ce forum, puisque, après tout, ils ont émis des recommandations qu'ils ont soumises à l'endroit de l'autorité provinciale qui n'est autre que le gouverneur Muyej Manguez-Mans. Nous estimons que ces recommandations seront prises en considération pour l'intérêt de la population. Monsieur Piero, la question que nous pouvons nous poser, quel sera l'avenir de nos enfants? Puisque les miniers sont en train d'exploiter nos richesses, et ils ne seront que des mines à ciel ouvert, des trous partout. Et ce sera ça l'investissement que nous avons fait pour la progéniture? Moi, j'estime que non. Nous devons appliquer cette loi de la sous-traitance en toute sa globalité afin de permettre la naissance d'une nouvelle classe politique et qui n'est autre que l'entrepreneuriat local. Au-delà de ça, M. Pierrot, il y a eu en son temps Cizaray qui était ici à Lubumbashi. Cizaray n'a travaillé qu'avec les sous-traitants et la production, elle a été normale. Et les sous-traitants étaient payés à temps plein, à temps réel. Or, aujourd'hui, avoir un marché dans une entreprise, c'est un autre problème, et c'est un problème. Et obtenir même le paiement, c'est une autre paire de manches. On peut vous octroyer ce marché, mais pour obtenir le paiement, il faut passer dans des combines impossibles. Et à ce moment-là, l'entrepreneur se retrouve main bredouille et ne sait pas comment solutionner le problème du salaire de ces travailleurs. Mmh. Au-delà de ça, par rapport au cahier des charges des entrepreneurs, des entreprises, M. Pierrot, la population indigène est en train de souffrir et abandonnée à son triste sort. Je vais illustrer cela avec deux cas à Lubumbashi. Le cas de Roche Mining, le cas de Schema. Et ces deux entreprises sont en train d'espolier la terre appartenant à des autochtones sans aucune autre forme de procès. Et cette population se sent abandonnée, même par les députés provinciaux qui sont les représentants de la population au niveau du gouvernement provincial, au niveau de la province, même les députés nationaux au niveau de la nation. Et tout cela devait être pris en compte par nos députés et convoquer ces entrepreneurs-là pour la faisabilité. Et deux fois, il y a même des sit-ins qui sont organisés par les autochtones et au gouvernorat et aux assemblées provinciales. aucune solution n'a déjà été trouvée. Si aujourd'hui vous vous rendez, vous voulez vous rendre au niveau de la commune de la Roissy, quartier Congo, il faut voir comment est-ce que la route qui mène de la ville vers l'entreprise Schema est en état très délabré. Mais cette entreprise-là paye des taxes. Cette entreprise-là doit songer à la réparation de cette route. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement s'est conflit avec cette entreprise Schema. Mais aussi, même au niveau de la santé de la population, on vivait en son temps, la Gécamine, quand elle utilisait les travailleurs. Il y avait des produits, il y avait des médicaments appropriés que la Gécamine fournissait aux familles de ces travailleurs, puisque les camps de la Gécamine étaient jusqu'à proximité de ces usines. Mais aujourd'hui, la population est abandonnée à son triste sort par rapport à quoi ça, le mot m'échappe, par rapport, je vais me rappeler le mot, vous permettez, M. Thérault. Et si je peux encore progresser.
Allez-y rapidement.
Nous appelons. Oui, alors ?
Oui, allez-y rapidement.
Oui, si je peux encore progresser, nous en appelons à la conscience des gouverneurs. Ce sont les gouverneurs qui représentent le chef de l'État. Ce sont les gouverneurs qui représentent le gouvernement national au sein des provinces. Ils doivent prendre en considération l'intérêt de la population.
Merci.
Nous estimons que, comme les recommandations ont été déposées dans le bureau du gouverneur, pour ne pas le citer, M. Mouyez Richard, Mouyez Ngas, nous estimons que le gouverneur prendra en considération ces recommandations.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Une nouvelle classe moyenne. Merci beaucoup. Vous avez évoqué les cas des pollutions. Je crois que ça a été abordé plusieurs fois ici sur les antennes des Radio Capi par rapport aux entreprises dans le Katanga, que ce soit l'eau, même aussi à Kolwezi, il y a eu aussi, que ce soit l'eau, que ce soit l'atmosphère qui était polluée. Et vous estimez qu'il y a d'abord la responsabilité par rapport au cahier des charges, le respect de la loi sur la sous-traitance. C'est-à-dire que si on reste dans le respect des textes qui régissent déjà toutes ces activités, on peut arriver à aider la population. Merci beaucoup, Maître Sonville, ingénieur Valérie. Vous êtes avec nous de Kindu. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à notre invité et à toute l'équipe des Okapistes.
Alors comment on peut arriver à concrétiser ces souhaits? Le gouverneur a souhaité, comme le disait notre invité tout à l'heure, c'est le souci même qui a été débattu, les recommandations. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à voir quand même cette exploitation minière favorisée à une classe moyenne, l'entrepreneuriat local? Alors pour vous, quels sont les préalables pour y arriver?
Oui, les préalables ne sont rien d'autre que l'expérience même déjà vécue chez les autres. Vous savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises, la loi, le droit n'existe pas pour des fins juridiques. Le droit existe pour des fins sociologiques. Lorsque une société est en train de vivre, elle constate tout ce que nous venons de dire ici. Il y a tel problème, il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut promouvoir la sous-traitance, il faut que la population urbaine se retrouve. Mais ce sont les matières premières de la sociologie. C'est ça la base des données qu'on va maintenant introduire. C'est ça la matière qu'on va introduire maintenant pour avoir un produit fini. Mais s'il n'y a personne qui nous empêche de voir notre avenir et de l'étaler, comme nous le voulons, alors que nous sommes entre nous, mais nous n'y parvenons pas. Il faudrait d'abord, le premier préalable, c'est quoi? Avoir des lois qui correspondent aux finalités sociologiques.
Mmh.
Deuxièmement, les appliquer. C'est ainsi que le droit se joue entre deux extrémités. Il y a celui qui commence le lundi et le dimanche. Ce sont les extrémités. Les extrémités de droit sont traduites par deux maximes de droit. Il y a une première maxime qui dit ceci, que ubi ius, ubi societas. Là où il y a la société, là où il y a la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est pour répondre aux besoins sociologiques. Et quand on a déjà conçu, parce qu'on les a conçus puisqu'on voulait atteindre certains objectifs sociologiques, maintenant qu'on les a conçus, il ne reste plus qu'à les respecter pour atteindre ces objectifs. Mais si on les conçoit et on ne sait plus les respecter, donc on n'atteindra pas l'objectif et ça reste lettre morte. C'est ainsi que, après avoir conçu, pour des fins sociologiques, le même juriste, Maître Sonville vient de me précéder, il pourra me compléter si je suis à côté, le même juriste vous donne encore une autre extrémité qui dit « Patere regem quame in se fecusti ». respecte la loi que tu as toi-même élaborée.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas sérieux, nous ne pouvons pas nous épanouir parce que nous votons des lois pour nous conformer aux autres, afin qu'on voie que dans notre pays nous avons aussi des lois, mais mm-hmm. ce n'est pas nécessairement pour que demain nous puissions les respecter afin d'atteindre le but. Voilà pourquoi nous échouons. Deuxièmement,
allez-y,
nous
rapidement,
devons éviter
oui.
la politique de deux poids deux mesures.
Mm-hmm.
Dans notre pays, on dirait qu'il y a une application des lois vis-à-vis des politiques des opposants et une autre vis-à-vis de ceux qui ne sont pas opposants, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Là aussi, ça décourage. Prenons l'exemple à Kinshasa là-bas. L'hôtel de M. Martin Fayoul, le Faden House, comme c'est un opposant, son hôtel est fermé jusqu'à ce jour. Les chaînes de les chaînes de radio et télévision, il n'y a que les chaînes des opposants qui sont fermées. Donc ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui payent les taxes, qui sont en ordre, ainsi de suite. Vous comprenez que dans un tel climat, même si quelqu'un a de l'argent, tant qu'il n'est pas du pouvoir, il ne va plus investir. Alors que s'il est dans les domaines, il peut bien avancer. Je suis bien content qu'un ancien gouverneur, pour ne pas citer notre frère qui était dans la province orientale, l'homme de... Non, notre frère là, le métis, hein, le gouverneur...
Jean Bamanissa.
Avec ton nom, mon frère.
Jean Bamanissa aussi, oui.
Voilà, je suis très content qu'il a pris son expérience pour aller monter une cimenterie au Bas-Congo. Il a quand même réduit le chômage. Donc voilà le problème qui est là.
Mm-hmm.
Il faudrait que la population puisse se retrouver, que l'on conçoive des lois et que la société civile aussi joue son rôle. Le problème, c'est que et la société civile et les délégués, les députés provinciaux et nationaux que Maître Sonville vient de citer, que je salue aussi en passant, ils ne sont plus dans les business que dans les objectifs. Quand chaque organe ne joue pas son rôle, comment voulez-vous qu'on puisse atteindre les objectifs? La société civile doit aussi veiller au respect du cahier des charges. Et les cahiers des charges doivent être élaborés avec des experts. Le problème, c'est que quand on arrive au niveau d'élaborer les cahiers des charges, c'est n'importe qui s'improvise parce qu'il est influent au niveau de la communauté, dans ces villages-là, où il a peut-être des parrains politiques, il veut s'improviser comme président, au lieu de favoriser la compétence et l'amour même de la patrie.
Merci.
Maître Sonville l'a bien dit, il ne faudrait pas que lorsque ces entreprises seront parties, puisque Alain Bolodjoa l'a aussi dit, que les minéraux sont épuisables. Je vous donne un exemple. C'est avec l'uranium venu de notre pays et on a bombardé Nagasaki et Hiroshima en 1945 pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, cet uranium était tiré des mines de Chikolobwe, toujours au Katanga. Mais aujourd'hui, si on arrive à Chikolobwe, est-ce qu'on peut trouver quand même des exemples? On peut trouver des investissements qui prouvent que voilà quand même la ville qui avait pourvu au bombardement de Nagasaki, puisque rien qu'avec l'argent perçu, la Belgique était le seul pays qui était sorti de cette guerre sans aucune dette extérieure. Vous comprenez combien ça rapportait à la Belgique? Mais alors, nous-mêmes ici, qu'est-ce que nous avons fait de cet argent?
Merci.
Voilà comment nous
merci beaucoup,
pas
ingénieur Valérie.
Nous croyons que l'État voilà. est notre allié, je vous remercie.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie, pour toutes ces précisions. Nous allons accorder la parole à notre invité, Georges Bokundou, pour placer les mots et commenter tout ce qui venait d'être dit par les compatriotes. En attendant, Séraphin, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne. 081-890-4969 et 081-890-6380 pour intervenir en direct dans ces magazines.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Georges Bokundou, vous avez suivi les uns et les autres. Quels commentaires vous faites par rapport à tous ces points de vue des compatriotes?
Merci d'abord. Je salue les interventions. C'est Capital, Alain, Sanville et Valérie. C'est la difficulté que nous avons tous les jours. Et c'est le problème que nous disons tous les jours, tout aussi. Mais je vais vous donner une préoccupation pour montrer que si on ne fait pas attention, nous n'aurons rien à la fin.
Mm-hmm.
Nous allons nous contenter des taxes que nous percevons. Et ça appuie notre budget parce que là, il faut le dire, sans ces paiements qui viennent des compagnies, peut-être nous n'aurons rien aujourd'hui. Mais regarde, nous avons dit dans un rapport, on n'a pas besoin des compagnies qui sont venues dans notre pays comme des passagers. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas venus s'installer. Parce que je peux vous montrer que toutes les grandes compagnies sont des locataires, ce qui n'est pas juste.
Mmh.
Les grandes compagnies, je ne vais pas faire de comparaison avec la Gécamines, la Somenki, l'Optimo, mais c'est rare de voir une compagnie qui construit même les camps pour ses propres travailleurs, ce qui n'est pas juste. Construisez les maisons, vos bureaux, c'est pour vous-même, c'est pas la propriété de l'État, mais ça contribue à embellir, à donner quand même une petite valorisation aux cités où vous vous implantez. Comment on peut manquer de villas pour les cadres des compagnies? Comment on peut manquer des camps pour les agents des compagnies? Parce que c'est là qui montre que la compagnie là est venue s'installer pour 30 ans, pour 50 ans, pour 100 ans, et qu'il a un titre minier qu'on lui a accordé par l'État congolais. Sa première contribution, c'est d'abord loger très bien les agents. Pas mettre les agents comme des gens qui sont venus comme des travailleurs à durée, avec des contrats à durée déterminés, mais des travailleurs qui sont là pour leur vie. Ils doivent avoir leur retraite, mais ils sont chez eux. C'est quand même une grande difficulté. Mm-hmm. Je peux peut-être aujourd'hui, sans me contredire, confirmer que plusieurs compagnies sont locataires. Ils n'ont pas construit des maisons et ce n'est pas normal. Ils n'ont pas construit leur propre bureau, où les bureaux sont dans les conteneurs, où les bureaux, pour certains, sont dans les anciennes maisons. J'ai Camille et Consort. Au Solinki. Ça, ça montre que, est-ce que ces compagnies peuvent contribuer au développement de manière intégrale? Ou ils sont juste là pour faire les bénéfices? Ça, c'est leur droit de venir faire les bénéfices, mais nous avons besoin, lorsqu'ils vont partir, qu'on puisse plutôt avoir des signes et que les compagnies, la population puisse dire, voilà, je suis à Kalima, voici ce que la Somenki a fait. Je suis, à quel coin, là où il y avait Doko, là où il y avait ceci, voilà ce que la Sokimula, voilà ce que la Miba a conçu comme une villa en Bujimaï, où tout le monde, même l'Assemblée provinciale, doit aller installer son bureau là-bas. Non, il y a un problème d'une contrainte ou d'un accompagnement que le gouvernement doit faire vis-à-vis de ces compagnies. Surtout, on ne peut pas considérer qu'une compagnie qui vient considère que la question du développement ne l'engage pas. Non, on n'a pas besoin qu'il fasse le développement pour l'ensemble du pays. Il fait le développement pour ses propres travailleurs, pour les milieux où ils se sont installés, et on doit sentir que non, à telle année, il y avait telle compagnie ici qui a fait quand même des merveilles. On ne doit pas toujours avoir de mauvais souvenirs des compagnies. Je sais que moi, si j'étais un opérateur minier ou un opérateur économique ou un investisseur quelque part, je dois dire, le jour où je vais partir, il faut que cette population se plaigne de mon absence. On ne doit pas dire que nous, la population, se plaint parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faut un changement. Donc j'apprécie toutes les interventions des collègues.
Oui.
Les mines sont épuisables. Nous percevons les taxes aujourd'hui. Demain, lorsque les mines s'épuisent, les autres vont partir. Ils auront tiré peut-être leurs intérêts. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons besoin, c'est que là où les compagnies s'installent, qu'il y ait un changement. Qu'on dise que nous sommes dans la ville d'écologie aujourd'hui. C'est grâce à KCC, c'est grâce à Sikomine, c'est grâce à Moumi. Et la ville d'écologie est devenue comme Johannesburg, qui a été construite par les mines. L'Australie, vous êtes à Sydney, vous êtes au Canada, ce sont les miniers qui ont contribué à la construction de ces villes. Même si les États de ces pays, les gouvernements de ces pays ont eu des obligations à donner aux opérateurs, aux investisseurs. Voilà un peu les débats que nous avons eu. Nous avons créé ces discussions à Mining Indaba pour créer un espace où les gens peuvent parler. Nous avons reçu des compagnies qui ont montré ce qu'elles font dans leur milieu. Il y a d'autres qui ont été appréciés. Je me dis, si on a mis en place Kibali Gold ici et Banro là-bas, il y a eu certaines appréciations qui sont venues de Kibali comme de Banro. Et il y a eu des critiques. Nous supposons que les critiques qui ont été formulées directement aux responsables de ces compagnies vont être prises en compte. La même chose, c'est un exemple, quand les délégués de TFM parlaient, il y a eu des appréciations des affaires pour montrer tout ce que l'entreprise fait, pour montrer tous les paiements que l'entreprise fait. Mais je vous dis, dans la salle, c'était tout un problème où tout le monde voulait poser des questions, tout le monde voulait se lamenter. Ça, c'est parce qu'on considère que c'est une très grande entreprise, mais nous voulons avoir des souvenirs.
Nous voulons voir que nous, grâce à TFM,
merci,
voilà le changement qui a été apporté. On ne dit pas que la TFM doit aller distribuer de l'argent auprès des populations. On ne dit pas que Kibal ou six communes doit aller distribuer de l'argent. Vous quittez la ville d'écologie pour aller dans les installations de six communes. Mais à un moment donné, on posait la question, où est-ce que les responsables de six communes passent? Parce que la route n'est pas entretenue, même pour les passages de la compagnie, pour elle-même. C'est ça, ce sont des choses que nous avons voulu créer comme débat, comme discussion. Et l'entreprise vient, il montre les efforts qu'elle fournit. Et la population dit non, ces efforts-là sont minimes. Ces efforts ne sont pas comparables à la taille de l'entreprise, à la taille de ce que l'entreprise produit, à ce que l'entreprise fait. Il faut un changement. Mais tout part de la réorganisation de l'État, de l'organisation, de ce que l'État veut. Lorsque l'État veut quelque chose, il doit le vouloir. Si l'État dit, nous voulons un peu identifier le nombre de sous-traitants qui sont dans cette entreprise, qui sont les compagnies locales, qui sont la petite, les PME locaux qui bénéficient des financements ou des appuis pour sous-traiter certains services. Nous aurons, l'État pourra voir que ici, il faut équilibrer. Là où nous n'avons pas de compétences, voilà ce que vous pouvez faire. Mais là où nous avons des compétences, vous devez faire ici. L'exemple de l'ATRECA a été donné. Comment la GECAMINE avait fait pour créer l'unité de l'ATRECA? C'était quand même une opération, l'entrepreneuriat local et avec des emplois locaux. L'ATRECA formait, il a engagé des gens et produisait les câbles électriques qui devaient servir. Est-ce qu'il faut toujours importer tous les jours les câbles? Est-ce qu'il ne faut pas créer quelques... La valeur ajoutée que nous voulons, la valeur ajoutée voudrait que les choses puissent être produites chez nous aussi, parce qu'en créant des petites unités de production, d'augmentation de valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça crée aussi d'autres taxes. Mais l'État peut se retrouver avec une masse de restes qui viennent en plus...
Merci Georges Bokundo. On va revenir à vous. Il y a encore deux auditeurs. Nous rappelons à tous ceux qui veulent bien nous joindre, parce que depuis 2-3 jours, on a eu des petits soucis de ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler en composant le 09-97-06-49-69, 09-97-06-49-69 et 09-97-06-63-80, 09-97-06-63-80 pour intervenir en direct. Nous, ici à Kinshasa, nous avons Séraphin qui est avec nous. Séraphin, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les sujets de Radio Capri.
On vous écoute, Séraphin.
Oui, merci une fois de plus de l'opportunité que vous m'avez accordé encore de passer à cette émission. Mais avant d'intervenir, je ferai d'abord réagir peut-être au propos de l'invité, parce qu'il a dit, je l'avais suivi tout au long de son exposé, que les entreprises devraient absolument construire même le logement de leurs travailleurs. Certes, c'est une bonne chose, mais néanmoins, lorsque l'entreprise vient investir avec un capital frais, pas nécessairement il doit construire les habitants, le logement de leurs travailleurs, mais c'est à partir peut-être d'un cadrement d'un environnement économique et social propice et qui peut permettre la construction des cash flows, qui peut permettre à ceux que l'entreprise puisse arriver à cela. Mais c'est notre souhait à tous, mais on ne peut pas obliger à une entreprise d'emblée, lorsque cette entreprise vient d'investir, qu'on puisse construire directement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retirer, hein. Mais c'est notre souhait à tous. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Normalement, en principe, une entreprise minière, pour que la population locale puisse en profiter, on doit créer ce qu'on appelle un fonds de développement local. Et moi, je crois que ce fonds de développement local doit ressortir aussi dans les codes miniers de notre pays. Parce que je me rappelle, l'année passée, j'étais à Burkina Faso. À Burkina Faso, là, j'ai vu comment est-ce que la société civile de Burkina Faso militait pour qu'il y ait même les fonds de développement local. On sait des entreprises minières. Mais chez nous, ici, les pommes qui se posent, c'est quoi? Vous avez su même mes prédécesseurs qui ont eu à élucider que notre société civile aujourd'hui, elle est beaucoup plus politisée au lieu de suivre l'essentiel. Mais tous sont allés maintenant dans la politique. Donc, elles sont en train de dénoncer rien que des faits politiques. Et parce qu'on sait qu'en politique, à dénoncer, on peut être débauché, on peut être fait ceci, on peut se retrouver facilement. Mais ce qui devrait maintenant plaider pour la population, cette société ne fait pas. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'il y ait une vraie société civile en République démocratique du Congo qui qui doit s'occuper du social des Congolais, surtout ceux-là qui sont dans des milieux où sont implantées des entreprises minières. Parce que n'oubliez pas que les entreprises minières sont en train de polluer l'air, l'environnement, là où elles sont implantées. Et la population doit être bénéficiaire du gain de ces entreprises-là. Ne fût-ce que même 1% des fonds de développement local pour permettre à ce que cette population de cette contrée puisse en bénéficier. C'est ça pour ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Séraphin. Mais par rapport à votre réaction sur le souhait de notre invité de voir, par exemple, un camp des travailleurs de telle société, vous pensez qu'on ne peut pas obliger la société d'emblée, quand elle vient s'installer, de construire les camps, mais c'est dans l'activité, dans l'exploitation, si l'environnement économique est propice, l'entreprise dans ses marges bénéficiaires peut arriver à faire cela. C'est ce que vous souhaitez, mais pas obliger l'entreprise dans son fonds d'investissement de prévoir déjà la construction de logements.
Oui,
c'est ce que vous avez
tout
souhaité.
À fait. Parce que pourquoi je dis ça? Si on respecte les codes du travail de l'Europe démocratique du Congo, parce que tout travailleur qui est embauché dans une entreprise, eux, que cette entreprise respecte les codes du travail, il y a des avantages sociaux auxquels l'entreprise est soumise pour payer les agents, notamment le logement, notamment les transports. Et tout cela, l'entreprise doit payer l'agent. Parce que ce n'est pas ipso facto que l'entreprise doit construire une maison pour un employeur. Non, tout dépend de l'entreprise. Avec les cash flows que cette entreprise va se constituer, elle peut aussi investir dans ces cadres-là. Mais on ne peut pas obliger d'emblée à une entreprise de construire le logement social. Non, ce n'est pas logique, ça, oui.
Merci beaucoup, Séraphin. Merci pour votre intervention, Séraphin. Et vous avez d'ailleurs souhaité l'instauration d'un fonds d'investissement au sein de ces sociétés. Ce fonds peut être affecté au développement de communautés locales. On reste ici à Kinshasa avec vous, Maître Likonza. Vous avez suivi les uns et les autres. Bonjour et bienvenue, Maître Likonza.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui. Quant à moi, je pense que pour permettre le développement de l'entrepreneuriat local, il faudrait penser à la segmentation du marché minier. Donc, que les industriels miniers ne puissent plus s'accaparer à toutes les activités dans les zones minières. Il faudrait que désormais l'on puisse réfléchir et voir à quelle mesure segmenter les marchés, quelles sont les activités qui doivent être exclusivement réservées à l'entrepreneuriat local et quelles sont les activités auxquelles les industriels miniers peuvent se lancer. Puisque les entrepreneurs locaux souvent n'utilisent pas des machines, des usines, comme le font les industriels miniers. Alors, l'État, par exemple, du recrutement du personnel, c'est une activité qui doit revenir exclusivement aux entrepreneurs locaux sous des contrats d'intérim, d'intermédiaire, et aussi la sous-traitance, par exemple. Donc, on ne doit pas tout laisser aux miniers, alors que les entrepreneurs locaux ont des idées. Mais il manque les secteurs, les domaines à se lancer. Alors, dans ces secteurs-là, il y a lieu maintenant de sauver l'entrepreneuriat local, par les exemples que j'ai donnés là, pour permettre aux nationaux de se lancer aussi dans ces zones minières-là, en initiant, en créant des entreprises. Et en créant des entreprises, ils doivent veiller aussi au personnel local, puisque... à ce moment-là, les miniers, les industriels miniers ne vont plus payer directement leur personnel. Mais ils vont commencer à payer plutôt les entreprises locales. Et à leur tour, elles vont maintenant payer le personnel qu'elles ont mis à la disposition des industriels miniers. Et on saura à quel niveau les industriels miniers bénéficient et à quel niveau les entrepreneurs locaux bénéficient. Et aussi... cette technique-là permettra d'enrichir un peu quelque peu, si vous voulez, les produits intérieurs bruts dans notre pays, puisque les industriels miniers sont plus généralement les expatriés. Ils viennent ici pour travailler en faveur de leurs États respectifs. Tous ceux qui gagnent ici rentrent à leur pays respectif. Mais ici, localement, qu'est-ce que nous bénéficions? Dans différentes communautés où il y a les zones minières, qu'est-ce que le pays bénéficie? Il faudrait maintenant réfléchir et voir comment on peut avantager
Merci.
Les entrepreneurs locaux.
Merci beaucoup, Maître Likonza, pour toutes ces précisions. On reste à Kinshasa parce que je le disais tout à l'heure que nous avons des petits soucis pour les appels entrants sur nos standards. C'est possible que vous tentez de nous joindre. Il est difficile de pouvoir nous joindre, mais nous sommes en train de rappeler ceux-là qui ont déposé leur numéro de téléphone sur la page Facebook. C'est pourquoi, gardez, soyez patients. Si jamais vous n'êtes pas intervenu aujourd'hui, vous pouvez bien vous récupérer dans la semaine dès que petit à petit vous pouvez joindre nos lignes. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas rappelé ou si vous ne parvenez pas à nous joindre, nous récupérons ceux qui déposent les commentaires ainsi que les numéros sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Félicien, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Félicien.
Entendre tout ce qui m'ont précédé disent, il s'avère que l'exploitation des ressources minières de notre pays n'ont jamais profité au peuple congolais. Et effectivement, quand nous visitons toutes ces villes, partout où on a exploité, où on exploite des minéraux depuis toujours, et l'état de ces villes sont dans un état où vous ne pouvez pas croire que c'est là que viennent ces richesses. Et les infrastructures, même n'en parlons pas. Et quand vous voyez surtout des grandes villes comme Goma, Beni, Butembo, Mbujimayi, Tshikapa, personne ne peut dire que c'est là où viennent tous ces minéraux qui font la richesse des pays étrangers. Donc moi, je pense que la spoliation et le pillage des non-richesses sont le fait de ceux qui nous dirigent, et parce que ils ne sont pas à mesure de combattre la corruption, ils ne sont pas à mesure de combattre les antivaleurs, et même ils sont très pressés de s'enrichir, ils sont préoccupés à leur enrichissement personnel, que de donner des conditions à ceux qui viennent exploiter pour qu'ils puissent laisser, comme l'a dit l'invité, des traces de l'existence de cette société. Parce que nous avons vu, même avec la colonisation, et aujourd'hui nous vivons dans des maisons de l'Onatra, dans des maisons de beaucoup de sociétés qui étaient à l'époque et qui ont construit. Mais si ces entreprises se comportent comme des locataires, des gens qui viennent juste pour faire les bénéfices et repartir, c'est la faute de nos dirigeants parce qu'eux-mêmes ils sont dans les systèmes et nous ne pouvons pas trouver des solutions avec ces gens-là. Donc il y a lieu que nous commencions à réfléchir autrement l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple congolais. Et c'est de cette façon-là que ceux qui viendront demain pourront peut-être sauver et ce qui a encore à sauver, parce que les minéraux, ils seront toujours pas là à tout moment.
Merci.
Aujourd'hui, c'est déjà, nous sommes en train de sentir déjà pour certains minéraux, les cas des diamants au Kassa, il y en a plus comme c'était hier avec la Nuba. Donc, le peuple congolais doit prendre conscience de cette situation, ne devons pas rester oisifs et en train de voir les pays en train de partir et de sombrer.
Merci beaucoup Félicien, et d'ailleurs là vous avez rejoint Séraphin qui disait tout à l'heure qu'il faudrait une société civile très forte. Pour lui, il estime que notre société civile est restée plus focalisée sur la dénonciation des faits politiques alors qu'elle pouvait être impliquée vraiment dans la lutte contre la fraude, dans la dénonciation. Et nous allons terminer avec vous Amos, vous êtes à Bukavu, le temps de permettre à notre invité de conclure ces débats. Amos, merci de nous avoir rejoint, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
En fait, par rapport au sujet au studio, nous pensons que la situation est grave. Parce que constatant que la RDC, c'est un pays qui regorge beaucoup de minéraux, les choses graves, la population congolaise, et plus particulièrement la jeunesse, continue à vivre dans une misère de honte. Comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, la population congolaise ne parvient pas à comprendre comment il y a des sociétés minières qui viennent exploiter nos minéraux, mais vous allez constater que la population vivant dans les zones où ces sociétés exploitent nos minéraux vit dans une misère de honte. Et on a constaté que c'est notre gouvernement qui négocie mal. Apparemment, quand notre gouvernement parvient à négocier avec ces différentes sociétés, nos autorités ne tiennent que sur leurs intérêts égoïstes, oubliant les intérêts de la population. Je prends l'exemple aussi de Kivu. On ne comprend pas comment nous avons une société minière Bandro. C'est une société qui exploite nos minéraux à grande échelle. Les choses graves, que ce soit à Mushinga où cette société exploite les minéraux, la population vit dans une situation de honte, une misère qualifiée. Et pourtant, vous allez comprendre avec le Greco, cette société parvient même à engager les gens de la sous-traitance, même des gens qui balaient la cour sont des étrangers. Au détriment de la population qui devrait bénéficier de ces minéraux, malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est là que nous ne parvenons pas à comprendre valablement quel est le vrai rôle de notre ministère du plan. Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres pays valablement gouvernés, c'est tel est le rôle du plan, le rôle du ministère du plan qui doit valablement s'ingérer dans ces arts de choses pour l'intérêt de la population. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et il y a même des gens qui travaillent chez Bandro qui vous diront qu'il y a des étrangers qui ne savent pas même lire leur nom. Il faut voir, ils touchent combien d'argent? De 5 000 $, de 6 000 $, au moment où le peuple congolais, et pourtant, c'est de lui qui devait profiter de ces minéraux, vit dans une misère de honte. C'est là que nous disons, merci. La RDC n'a pas de chance d'avoir des dirigeants qui nous servent comme des mercenaires. Ils servent les intérêts des étrangers au détriment de la population qu'elle devrait.
Merci beaucoup, Amos. Merci.
C'est très grave pour la population congolaise.
Merci beaucoup, Amos. C'est votre cri de détresse. Félicien le disait tout à l'heure, il faut que les gens se réveillent, que les autorités se réveillent, les gouvernants se réveillent, la société civile, la population, parce qu'à un certain moment, il faut que les choses changent, que les gens arrivent aujourd'hui à se réjouir, n'est-ce pas, de minérer dans leur milieu. Félicien a donné tout à l'heure l'exemple de Chikapa, l'exemple de Mbujuma, de ces provinces qui faisaient la fierté avec le diamant, et dans quelles conditions ces provinces se retrouvent aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit, un jour ou l'autre, les mines peuvent s'arrêter. Merci. Merci à tous, vous avez été nombreux. On revient à vous, Georges Bokundou. Dans l'ensemble, si on peut revenir maintenant à vos recommandations, peut-être en deux, trois lignes, réagir à ce que le compatriote venait de dire, mais aussi présenter les quelques recommandations de ces forums rapidement pour terminer cet échange, Georges Bokundou.
Merci Pierrot. Je suis tout à fait d'accord avant de donner les recommandations. Je suis d'accord avec tout le monde, à l'exception de Séraphin. Parce que je vous dis, d'abord, on ne peut pas dire que tous les membres de la société civile font la politique, font des dénonciations politiques. Dans le secteur des ressources naturelles, j'ai des collègues, des partenaires avec qui nous travaillons et des organisations qui sont impliquées dans les questions des ressources naturelles. Je ne pense pas que tout le monde fait la politique, ça, je suis désolé. De deux, les fonds de développement local, ce sont les organisations de la société civile congolaise qui l'ont placé. S'il a lu le projet du code minier actuel, ces fonds-là est là-dedans, dans le projet actuel. L'unique divergence que nous avons avec le gouvernement, parce que nous tous, nous avions adopté dans les travaux tripartites à un taux de 0,3%, des revenus des minéraux vendus, des métaux vendus, et le gouvernement l'a ramené à 0,1. Donc la société civile a fait son travail. La loi actuelle qui est au Parlement, c'est une grande contribution qui est venue de la société civile, une très grande. De deux, nous n'avons pas demandé que les entreprises construisent des logements sociaux pour la population, non. Si les collègues Ikonza a dit que les colonisateurs... On demande à ce que les entreprises construisent pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, oui. Pour leurs propres agents, pour leurs propres cadres. C'est une façon aussi de
Georges Bokundou, si vous pouvez maintenant donner les quelques recommandations rapidement.
La première des choses, c'est que nous avons besoin à ce que le secteur minier soit réorganisé, soit bien gouverné, et qu'ensemble, les mines produisent des intérêts pour les investisseurs, et produisent aussi des intérêts pour la nation, pour la population congolaise. On a besoin de que la loi sur la sous-traitance soit d'application totale dans le secteur minier. Et la question de l'exploitation artisanale a été aussi évoquée là-dedans. Il faut nécessairement réorganiser, formaliser ce secteur artisanal qui emploie plusieurs personnes, même si aujourd'hui les effets ne sont pas encore palpables.
Oui. Merci.
J'annonce que les recommandations finales vont être déposées au ministre des Mines
incessamment et ça va être publié à l'attention de tout le monde.
Merci. Merci beaucoup, Georges Bokundou, organisateur de Forum Minier Indaba à Kolwezi. Merci aux auditeurs et à toute la population qui a suivi. Parole aux auditeurs, vous avez été nombreux. On s'excuse pour les lignes téléphoniques, mais je crois peut-être qu'à partir du magazine de lundi, ça sera déjà disponible. Mais n'oubliez pas que quand vous avez besoin de nous appeler, faites-le en formant les 09 97 06 49 69 09 97 06 63 80. Je crois que vous pouvez intervenir en direct sans problème. Merci à Sylvain Matondo qui était à la mise en onde de ce magazine.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Nico Kalambay était à la réalisation et Piero Elamé, je vous a présenté ces magazines sous la supervision de Martin Seboujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Mais n'oubliez pas, Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiookapi.net. Merci. Au revoir.